Près de Memphis, au Tennessee, une jeune mère de 25 ans disparaît alors qu'elle rentre d'une soirée au casino. Mais est-ce l'appât du gain qui a motivé cet enlèvement? Ou bien la jalousie? Plusieurs proches de la jeune femme semblent avoir un mobile, et la police ne sait pas quelle piste privilégier. Elle fait appel au FBI pour porter un regard neuf sur l'affaire. Vous écoutez les dossiers du FBI. Je funeste au casino. Première partie.
Tunica County au Mississippi se trouve juste au sud de Memphis au Tennessee. C'est la troisième plus importante destination des amateurs de casino. Shannon Sanderson, 25 ans, y allait fréquemment depuis quelque temps. Le 19 avril 1996, cette femme de Memphis se rendit à son établissement favori. La soirée allait bon train. Au blackjack, elle avait réussi à faire de sa mise de $500 un magot de $5,000. À 3h30 du matin, elle échangea ses jetons contre de l'argent et décida de rentrer chez elle. Quand les joueurs remportent de grosses sommes, la plupart des casinos leur offrent un service d'accompagnement jusqu'à leur auto. Ce casino ne faisait pas exception à la règle. Shannon avait ensuite une heure d'auto à faire avant d'arriver à Memphis par des petites routes isolées. Elle connaissait bien la route. Elle adorait gagner, mais elle pouvait se permettre de perdre. Moins d'un an plus tôt, elle avait épousé son patron, un multimillionnaire de 33 ans, son aîné. Plus tôt dans la soirée, elle avait déposé ses trois jeunes enfants nés d'un mariage précédent chez leurs grands-parents au nord-est de Memphis. Il était environ 4h45 du matin lorsque Shannon gara son auto dans l'allée de ses ex-beaux-parents pour prendre ses enfants. Dans la maison, le couple fut réveillé par un cri perçant. L'ex-beau-père de Shannon s'approcha de la fenêtre et la vit se débattre avec quelqu'un qui portait une casquette de baseball. Il sortit pour aller l'aider. Des voisins entendirent également des cris et furent témoins de l'enlèvement. En quelques secondes à peine, cette mère de trois enfants avait été enlevée à moins de 20 mètres de la porte d'entrée. L'ex-beau-père appela immédiatement le service d'urgence. Des policiers de Memphis furent dépêchés sur les lieux. Dans les cas d'enlèvement, une réponse rapide peut faire toute la différence. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivèrent sur place et interrogèrent l'ex-beau-père de Shannon. Le capitaine de la police, Richard David Rawlson, alors sergent, se rappelle cet homme ébranlé qui faisait de son mieux pour décrire la scène dont il avait été témoin.
L'homme a entendu du boucan et il a vu une voiture s'éloigner. Au même moment, d'autres voisins ont également entendu le bruit et regardé dehors. Ils ont vu la voiture qui partait. Ils nous ont donné une description du conducteur et de son véhicule.
Malgré la faible lueur de l'aube, les témoins étaient tous d'accord sur le fait que le conducteur portait une casquette rouge. Mais la description de son véhicule variait. Certains croyaient que c'était une voiture sport d'une couleur foncée. L'un d'eux croyait avoir reconnu une Chevrolet Beretta de couleur bordeaux. Malheureusement, personne ne pouvait fournir une description du visage de l'individu. Sur l'allée, à proximité de la rue, les policiers trouvèrent deux boutons en métal qui avaient vraisemblablement été arrachés des vêtements de Shannon. Non loin de là, on trouva un ongle artificiel. On fouilla la voiture de la victime, mais il n'y avait aucune indication sur l'identité du ravisseur, ni sur l'endroit où Shannon pouvait se trouver. Son ex-beau-père donna à la police le nom du casino qu'elle et son nouveau mari fréquentaient. L'établissement confirma qu'elle y était bien allée et qu'elle avait remporté la somme de 5 000 $, mais on fut bien incapable de dire avec qui elle s'y trouvait. Plus tard, au cours de la journée, la nouvelle de cette mère de 3 enfants enlevés à quelques pas seulement de l'endroit où ils dormaient secoua la population, selon le procureur du district de Memphis, Jerry Kitchen.
Shannon semblait prendre l'éducation de ses enfants très au sérieux, puisqu'elle était rentrée à Memphis pour aller les chercher et s'assurer qu'ils ne manqueraient pas un jour d'école.
La police de Memphis interrogea ensuite l'ex-mari de Shannon, le père de leurs 3 enfants. Il était à son lieu de travail lorsque Shannon avait été enlevé devant la maison de ses parents. Bien que leur relation ait été plutôt orageuse, ils avaient été mariés pendant près de 8 ans. Ils avaient finalement divorcé après que Shannon soit tombée amoureuse de son mari actuel. Même s'il avait un alibi solide, les policiers étaient hésitants à l'éliminer de la liste des suspects si tôt dans l'enquête.
Qui sait pourquoi les gens divorcent? Mais j'ai rarement entendu parler d'un bon divorce. Elle lui faisait payer une pension même si elle était mariée à un homme fortuné.
Les policiers s'adressèrent à son nouveau mari pour en savoir davantage. Puisqu'il était millionnaire, Shannon pouvait avoir été enlevé par des ravisseurs qui souhaitaient demander une rançon. Mais le mari n'avait reçu aucun appel téléphonique ni demande de rançon. Il avait été réveillé à 5 heures du matin par la police lui apprenant la nouvelle de l'enlèvement de sa femme et il en avait été très affecté. Malheureusement, la dernière fois qu'ils s'étaient parlé, c'était la veille pour se disputer. Il célébrait son 58e anniversaire. Ses filles d'un mariage précédent lui avaient rendu visite ce soir-là. Shannon avait d'autres plans en tête car elle prévoyait l'emmener au casino.
Hello?
Hi, sweetie. Yeah.
Après avoir déposé ses enfants, elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle venait le chercher. Il lui avait alors répondu qu'il n'était pas prêt. Ses filles étaient encore là et il désirait passer un peu de temps avec elles avant de sortir. Cela rendit Shannon furieuse. Selon son mari, elle pensait qu'il la faisait passer après ses enfants. Il lui répondit qu'il pouvait être prêt dans 1 demi-heure, mais elle lui raccrocha la ligne au nez. Il espérait qu'après s'être calmé, elle reviendrait sur sa décision et viendrait le chercher. Il essaya de l'appeler plus tard, mais n'obtint pas de réponse. Les policiers lui demandèrent ensuite qui, à son avis, aurait pu en vouloir à la vie de Shannon. Le mari mentionna un ex-petit ami contre lequel Shannon avait porté plainte pour harcèlement 1 an plus tôt. Il croyait que cet homme possédait une Chevrolet Beretta. Au poste de police, les agents fouillèrent leur base de données mais découvrirent qu'aucun des membres de la famille de l'ex-petit ami, ni lui, ne possédait de Beretta. On effectua une vérification de ses antécédents pour constater qu'un juge avait effectivement ordonné à cet ex-amant de couper tout contact avec Shannon pendant 1 an. Les enquêteurs se rendirent chez lui pour l'interroger, mais il était absent. De plus, il ne s'était pas présenté au travail. Sa sœur habitait le même quartier, soit à quelques pâtés de maison seulement de l'endroit où Shannon avait été enlevé. Elle déclara avoir vu une voiture suspecte passer devant chez elle la nuit du crime. Elle était dehors, sur sa galerie, lorsqu'elle avait aperçu une Chevrolet Beretta prendre de la vitesse en quittant le quartier. Au début, elle n'avait pas reconnu le conducteur, mais lorsqu'elle avait vu le visage du mari multimillionnaire de la victime aux nouvelles, elle avait été convaincue qu'il s'agissait de lui. Les policiers de Memphis, qui avaient d'abord pensé que l'enlèvement de Shannon était une affaire de rançon, devaient maintenant tenir compte de cette autre hypothèse. La police de Memphis demanda au mari de Shannon de fournir une déposition formelle. Son avocat à ses côtés, il parla au détective de sa relation avec Shannon. Les policiers savaient déjà qu'il l'avait rencontrée alors qu'elle était encore mariée.
Here's your coffee, sir. Be careful, it's really hot.
Elle travaillait pour lui, mais bientôt, leur relation devint plutôt intime. Leur idylle les avait menés au mariage. La magie n'avait toutefois pas duré longtemps. 9 mois plus tard, ils avaient négocié une entente post-nuptiale dans l'éventualité où leur relation orageuse en viendrait à se terminer. Tous deux avaient déjà connu le divorce et Shannon voulait être sûre qu'elle conserverait la garde de ses enfants. Ils avaient conclu cette entente seulement 10 jours avant sa disparition. Le mari de Shannon ne manqua pas de souligner que c'était sa femme qui avait insisté pour signer cette entente. Il ajouta que l'argent n'était pas source de conflit entre eux puisqu'ils avaient des comptes bancaires séparés. À la demande des policiers, le mari accepta de refaire sa déposition, mais cette fois-ci à l'aide d'un détecteur de mensonges. Pour ne rien laisser au hasard, les policiers vérifièrent également auprès des morgues de la ville, des prisons et des hôpitaux. Mais après une semaine, ils n'avaient toujours aucun indice sur l'endroit où Shannon pouvait se trouver. Les policiers de Memphis reçurent également des dizaines d'appels téléphoniques. Même si la plupart des gens voulaient bien faire, leur démarche ne menait à rien. Malgré tout, il fallait examiner toutes les pistes. L'un de ces appels venait d'une certaine Sharon Powers qui vivait à Clarksdale, au Mississippi, à 125 km au sud de Memphis.
On avait parlé de l'enlèvement dans les journaux et aux nouvelles et donné une description de la voiture.
Richard David Rolson, capitaine de police.
Cette femme a contacté le service de police de Memphis en disant qu'elle croyait son mari impliqué à cause de la description de cette voiture.
Elle déclara à la police que son mari Lee correspondait à la description du suspect. Le jour du crime, il portait une casquette rouge et il avait quitté la ville à bord de sa Chevrolet Beretta rouge pour rendre visite à sa mère. La femme ajouta qu'elle s'était disputée avec lui avant son départ. Les policiers lui demandèrent de les appeler dès que son mari rentrerait à la maison. Mais cette piste ne semblait guère plausible. Cette histoire ressemblait plus à une dispute conjugale qu'à autre chose. Après 2 semaines de recherche, les enquêteurs n'avaient fait aucun progrès pour retrouver la trace de cette mère de 3 enfants. Sa famille s'accrochait à l'espoir qu'elle soit toujours en vie. Dans une enquête, on commence par essayer d'éliminer de la liste des suspects les personnes de l'entourage immédiat de la victime. Après plus de 2 semaines de recherche, le capitaine Richard David Rolson de la police de Memphis craignait d'avoir épuisé le temps dont il disposait pour retrouver Shannon.
À cause de tous ses anciens amis et amants, nous n'avions pas la moindre idée de ce qui s'était produit. Mais les jours passaient et nous savions que nos chances de la retrouver en vie étaient de plus en plus minces.
Le 6 mai, l'ex-petit ami de Shannon vint enfin au poste pour subir un interrogatoire. L'année au cours de laquelle on lui avait interdit de s'approcher de Shannon venait de se terminer. Il déclara qu'au moment de l'enlèvement, il dormait chez sa mère. Il refusa de se soumettre au détecteur de mensonges tant qu'il n'en aurait pas discuté avec son avocat. Il ne pouvait être écarté de la liste des suspects. Mais comme le mari de Shannon, on ne disposait d'aucune preuve pour le disculper ou l'inculper de la disparition. Puis, le 9 mai, on dépêcha des policiers du bureau du shérif de DeSoto County au Mississippi, un terrain en pleine campagne, dans la localité d'Eudora, à 65 km au sud de Memphis. Un couple qui inspectait sa nouvelle propriété avait remarqué une forte odeur pestilentielle. Par la suite, il avait trouvé le corps d'une femme en décomposition. Les experts en scène de crime de DeSoto County quadrillèrent le terrain avant de le fouiller. Méthodiquement, ils se mirent à la recherche de tout indice potentiel. Ils étiquetèrent et notèrent tous les éléments trouvés à mesure qu'ils se rapprochaient du corps. À 5 mètres, ils trouvèrent un escarpin. Plus près encore, ils en trouvèrent un autre. Pendant ce temps, le shérif de DeSoto examina ses dossiers. Personne ici n'avait signalé la disparition d'une femme. Il élargit son champ de recherche pour y inclure des villes plus importantes de la région. Lorsqu'il contacta les autorités de Memphis, il apprit que Shannon Sanderson, une mère de 3 enfants d'à peine 25 ans, était portée disparue depuis plus de 2 semaines. Les agents de DeSoto obtinrent alors sa description physique. Elle était blonde, mesurait 1,60 m et pesait 59 kg. Elle avait un petit tatouage, portait une robe et des escarpins, de même qu'une veste ornée de boutons en métal. Elle avait de faux ongles roses. Cette description concordait avec le corps découvert. Maintenant, on devait pratiquer une autopsie pour confirmer l'identité de la victime et établir la cause de sa mort. Dans son rapport, le médecin légiste nota qu'elle avait été tuée par un projectile de calibre 25 à la tempe droite. On retira ses vêtements et on les conserva en vue d'y prélever des micro-indices que le meurtrier aurait pu y laisser. Le corps, dont la mort remontait à 2 ou 3 semaines, était dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on puisse reconnaître le visage de la victime. Mais au-dessus de son sein gauche, les experts remarquèrent un petit tatouage encore visible. Il y était écrit « I love you, Robert ». Shannon Sanderson avait un tel tatouage à cet endroit. Le médecin légiste compara ensuite les radiographies dentaires effectuées lors de l'autopsie à celles de Shannon. L'identité de la victime fut confirmée. Il s'agissait bien du corps de Shannon Sanderson. Par conséquent, l'enlèvement était maintenant devenu une affaire d'homicide. À Memphis, on confia le cas à l'assistant du procureur, Jerry Kitchen. Sa première tâche consisterait à éliminer le plus de suspects possible de la liste établie par les enquêteurs depuis les 3 dernières semaines.
Ici, à Memphis, il est plutôt rare que nous soyons aux prises avec ce que j'appellerais des cas mystères, c'est-à-dire des cas où nous ne parvenons pas à trouver rapidement un suspect et à l'arrêter après le fait. Mais dans ce cas-ci en particulier, nous étions face à ce problème, c'est-à-dire que de nombreux suspects potentiels pouvaient avoir joué un rôle dans l'enlèvement et le meurtre de cette victime.
L'assistant du procureur commença par appeler le bureau d'enquête du Tennessee pour leur demander de procéder à des examens polygraphiques en vue d'éliminer des suspects.
Bien sûr, dans ce type d'affaires, nous devons toujours tenir compte des parents et connaissances ou des maris. En fait, de toute personne avec qui la victime a eu des relations et qui, après coup, peut devenir une source de disputes ou de violence.
Les autorités du Tennessee soumirent plusieurs des amis de Shannon à un examen. Ils leur demandèrent notamment où ils se trouvaient lors de l'enlèvement. Ils leur demandèrent également sans détour s'ils avaient enlevé ou tué Shannon. Tous le nièrent catégoriquement. Le test confirmait leurs assertions. Les enquêteurs corroborèrent ensuite leurs alibis et les éliminèrent un à un de la liste de suspects. Parmi les personnes soumises à l'examen se trouvait la femme qui affirmait avoir vu le mari de Shannon dans le quartier quelques moments avant l'enlèvement au volant d'une Beretta Bordeaux. C'était le même genre de véhicule que celui décrit par les autres témoins qui avaient vu l'enlèvement de Shannon. Le test permit d'établir que la femme mentait. Même si ce faux témoignage disculpait le mari de Shannon, il n'en restait pas moins que la relation de la victime avec lui fut orageuse. Les policiers espéraient établir une fois pour toutes s'il était impliqué ou non dans le crime.
Le crime avait été commis à 4 heures du matin.
Jerry Kitchen, procureur.
Le mari de la victime nous avait dit qu'il était au lit, seul. Et il n'avait donc pas d'alibi solide. C'était difficile de passer par-dessus ce fait, parce qu'il nous était impossible de vérifier s'il disait vrai. Nous n'avions pas d'autre choix que de le croire.
Les enquêteurs demandèrent au mari de Shannon de se soumettre au détecteur de mensonges. Sur les conseils de son avocat, il refusa de le faire, même s'il avait accepté plus tôt. Selon son avocat, les médicaments qu'il prenait pour le cœur risquaient d'affecter les résultats du test. Pour le capitaine Rawlson, ce refus n'avait rien pour atténuer les soupçons qui pesaient contre lui.
S'il n'avait rien à voir là-dedans, pourquoi refusait-il de collaborer? Étant détective en homicide, cela nous rendait soupçonneux, ce qui le rendait, lui, encore plus méfiant.
Faute de preuves, l'enquête stagnait. L'agent spécial et superviseur Jennifer Eakin du bureau du FBI de Memphis fut assignée à cette affaire. Elle espérait y donner un souffle nouveau en réexaminant des pistes qu'on avait peut-être négligées.
On doit envisager toutes les possibilités, et ce, dès le début de l'enquête. On ne doit pas tomber dans des spéculations sans fin sur le caractère de tel type, la nature de sa relation avec la victime, etc. Nous avons alors tenté d'identifier de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes à explorer.
L'une de ces pistes, bien que peu prometteuse, était celle de Sharon Powers, la femme qui avait déclaré que son mari correspondait à la description du suspect. Mais maintenant, elle n'était même plus certaine de ses déclarations. Elle dit à la police qu'elle s'était sans doute emportée, renforçant du même coup l'impression des agents qu'elle tentait simplement de se venger de son mari qui l'avait quittée. Bien que celui-ci ne fût pas un suspect important, les policiers désiraient l'interroger. On transmit un bulletin spécial à tous les services de police pour leur faire savoir que Gerald Lee Powers était recherché pour subir un interrogatoire. Ensuite, des agents du FBI et des enquêteurs du Tennessee visionnèrent l'enregistrement de la caméra au-dessus de la table de Blackjack où Sharon avait remporté les $5,000 disparus avec elle. Sa pile de plus en plus haute de jetons en faisait une cible attrayante. Les enquêteurs tentèrent de voir si un homme semblait s'intéresser à elle. Mais si le meurtrier avait l'intention de la tuer, pourquoi, se demandait l'agent Aiken, avait-il attendu aussi longtemps pour passer à l'action?
Il était évident qu'elle gagnait de l'argent depuis un bon bout de temps. Elle était là tard dans la nuit. Et pourtant, l'enlèvement n'avait eu lieu qu'une heure et demie après qu'elle eût quitté ce lieu. Nous devions donc tenter de déterminer si ce meurtre avait quelque chose à voir avec sa visite au casino ou non.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Greg Francis. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.